fini, tu dis.
Alors, effectivement, ce n'est pas organisé de manière telle que vous voyez bien les choses. Donc, vous faites un petit torticolis au passage. Et voilà. Désolé.
Peut-être.
Oui, bah, simplement, en fait, puisque voilà, moi, je travaille à l'école d'art de Clermont-Ferrand. Et je suis co-coordinateur de la recherche depuis cette année, avec en binôme avec Cédric Loire, qui est enseignant à l'école également. Et simplement pour dire que depuis 2012, on a monté une chose qu'on appelle la coopérative de recherche, qui est une sorte de plateforme de mise en commun, de réflexion, d'outils et de formes, et dans laquelle qui vient s'adosser sur deux grandes thématiques gérées par l'école, qui sont les espaces des paysages et les mondes du travail. Donc deux choses assez vastes, mais qui ne sont pas innocents, disons, puisque Clermont est quand même dans un territoire très paysager et en même temps sur un terreau industriel assez fort. Voilà, et donc à l'intérieur de cette coopérative de recherche, on a mis en place un système de résidence, donc des chercheurs qui viennent travailler pendant une année, et également un troisième cycle. Et c'est simplement voilà, pour dire que Gaëlle Panchal est donc en résidence à l'école pour cette année, et c'est dans ce cadre-là qu'il va...
Et j'en suis très heureux.
Ouais.
Merci Philippe. Je vais vous présenter un aperçu de mon travail, enfin des questions qui je pense sont à l'œuvre enfin, dans mon travail. Vous m'entendez là, j'ai pas besoin de micro. J'espère. Donc bon, voilà, il s'avère que je vais vous lire peut-être très rapidement un court résumé de l'intervention, qui bon, elle mérite peut-être d'être. Intelligible. Voilà, enfin, je pense que différents milieux humains et non humains coexistent. Malgré leur porosité, ces milieux, lorsqu'ils ne s'ignorent pas, se rencontrent à peine. Dans mon travail de sculpteur comme dans ma recherche, je souhaite œuvrer à la bordure de ces mondes et donner corps à la possibilité d'une rencontre. Qu'advient-il du corps lorsque celui-ci s'aventure à la périphérie de lui-même, lorsqu'il se frotte à la frontière de sa propre définition? Travailler sur le seuil, c'est aussi postuler que l'on ne puisse être nommé, que l'on ne puisse assigner un nom à chaque chose, c'est se garder d'un monde qui ne serait qu'humain. Je travaille en fait depuis quelques temps déjà, plus à la ville en fait, je travaille à la campagne, en fait je préfère, voilà, je travaille dans un milieu rural depuis quelques années, depuis 2012, et bon voilà, j'ai l'impression que le travail s'est déplacé au contact de cet autre milieu. Il y a eu au début, enfin, un intérêt comme ça pour la figure de l'épouvantail, alors, parce que je percevais dans cette figure-là comme une sorte, voilà, enfin, que reste-t-il de la persistance comme ça d'une présence humaine jetée dans la nature, enfin, ce qu'on va appeler la nature, ou en tout cas, ce que je pourrais appeler le dehors, en fait, plutôt que la nature. Cette représentation humaine étant là, visiblement, pour épouvanter, enfin, littéralement, mais il m'intéressait qu'elle se situe vraiment en bordure de l'humain. J'y perçois aussi comme des oripeaux, comme ça, des anciens maîtres et possesseurs, ou en tout cas de ces oripeaux qui seraient jetés comme ça aux avant-postes de l'humain. Ces présences comme ça qui sont à nouveau dans cette ignorance, peut-être qu'il y a des choses qui n'appartiennent à personne, et des choses qui existent littéralement sans maître et possesseur. À la suite de ces épouvantails, en fait, sont apparues, bon, dans mon travail, différentes choses, des sortes d'ectoplasmes, enfin des sortes de, avec différents titres que je vous dis rapidement, comme le membre, la traite, le plumage, des sortes de formes flottantes, comme ça, en suspens, en fait, des sortes de choses un petit peu exténuées, comme ça, des sortes de formes qui ont toutes pour caractéristique le fait qu'elles sont, voilà, des habits de travail en fait qui sont en contact avec des activités d'élevage ou des activités d'agriculture, et donc ce sont souvent des habits de travail qui sont à usage unique et qui sont comme ça dans une sorte de presque, voilà, remisé plutôt de côté. Ces sortes de pelures, en fait, elles sont régulièrement retournées sur elles-mêmes. Elles sont un peu comme des gants. On ne sait pas exactement où a eu lieu le contact, si, enfin, à l'extérieur ou à l'intérieur de ces restes de formes anthropomorphes. La plupart d'entre elles comportent un marquage, des traces de marques, en fait, comme ici, on peut le voir, ou aussi ici. Là, il s'agissait d'une exposition, enfin, très directement dans un ancien abattoir, en fait, à Neuchâtel. La plupart de ces pièces, elles comportent tout un ensemble de traces, dont des marquages animaux, des signes réalisés au marqueur pour marquer des animaux. Voilà, comme une sorte d'émergence, comme ça, peut-être d'un vocabulaire de signes. D'autres comportent en leur revers des choses comme de la graisse à traire, par exemple, ce qui les rend beaucoup plus. Voilà. Il y a ce frôlement continu du vivant qui m'intéresse. Enfin, je pense à ce beau livre de Jean-Christophe Bailly, enfin, Le Parti pris des animaux, où il parle chaque animal est un frémissement de l'apparence et une entrée dans le monde. Et je crois que c'est précisément ce moment-là, enfin, ce moment de friction, ce moment de rencontre ou de frôlement qui me touche en fait, particulièrement, ce moment charnière, en fait. J'en suis venu à m'intéresser à ces objets que l'on côtoie quand on vit sur place, enfin, en milieu rural. Ces clés, ces clôtures d'éleveurs, ces clôtures qui permettent donc de fermer, qui permettent la maîtrise d'un passage, de ce qui nous sépare du non-humain, pour reprendre le terme usité. En tout cas, ce qui permet de juguler comme ça le vivant. Ce sont précisément tout ce qui s'accumule en fait autour de cette césure, toutes ces traces en fait de passage, ces laines, ces restes comme ça de passage qui m'intéressent. Et à nouveau, je repense à Bailly quand il parle pour l'animal de cette chose qui serait comme un exil dans la visibilité, on est dans un tout autre régime que celui de la visibilité, puisque il ne m'intéresse pas forcément de représenter l'animal ou enfin directement, mais plutôt justement ces questions de passage et ces questions de fluide. Je dirais qu'on est à la lisière comme ça, un petit peu comme une histoire de mortier comme ça, de mastic qui viendrait comme ça consolider le fait que on est face à une séparation et en même temps on a toute cette matière qui va s'accumuler à la commissure de cette vitre, en fait, comme une sorte d'écume. Et c'est précisément cette matière-là qui est mon matériau de travail, en tout cas, je pense. J'en suis venu par la suite à m'approprier tout un ensemble d'objets, comme des silos, des réserves à grains, des silos qui sont ouverts en deux, en fait, qui sont tranchés, puis comme ça, ouverts... Ouverts en deux, oui, on va bien. Des réserves plutôt d'intérieur, donc des réserves à céréales, le geste étant littéralement de vraiment montrer la coupure, en fait, de vraiment de trancher ces objets en une ou plusieurs parties, et la persistance en fait de cette transparence dans ces silos qui ne sont plus homologués, puisqu'il s'agit aussi de choses qui sont en résine, qui sont liées à des matériaux quasiment prohibé aujourd'hui, en fait, comme pas mal de ces matériaux industriels. Ce mur transparent, ce translucide, en fait, de cette paroi, réaffirme pourtant néanmoins la présence de ce mur, enfin, la présence de cette séparation, en fait, avec le dehors. Je repense à cette phrase de Louis Kahn, en fait, l'architecte, qui disait que, voilà, on construit un mur en espérant qu'une lumière observée un jour ne frappera de nouveau à un moment rare. Je pense que c'est précisément cela, en fait, auquel peut-être je vise dans ce type de sculpture. Ces silos, ils contiennent des sortes de traces de récolte, enfin, c'est des sortes de traces de fruits, de choses qui sont plutôt passées, des choses aux couleurs délavées, en fait, par la lumière, en fait. Je peux rapprocher tout un ensemble de fruits factices, en fait, qui ont passé beaucoup trop de temps à l'extérieur ou en vitrine, donc ont vraiment perdu tout leur coloris et tout un ensemble de teintes comme ça qui me touche. Et donc c'est pour la plupart des objets, voilà, des objets épars, des objets qui sont peut-être en suspens comme ça, comme une sorte de pomme, donc ce qui resterait peut-être la pomme du Limousin, je ne sais pas. Mais en tout cas, il s'agirait peut-être d'aller peut-être un peu plus profondément et essayer de, de montrer, d'enlever, de montrer le noyau, plutôt l'absence de noyau à un moment donné de ces formes-là, en fait, de ces objets-là. Si il s'agit peut-être de creuser un peu plus profondément, là, je repense en fait à cette œuvre-là qui est presque très antérieure par rapport à ce que je viens de vous présenter, en fait, qui est voilà une sorte de signe, enfin de choses que je considère presque comme une lettre que j'ai sortie en fait un matin en fait parce qu'elle était complètement enlisée tout contre le barrage du centre d'art de la Civière, et en fait je tombe de temps en temps sur ces choses qui seraient comme des bouts de lettres, ce que je considère comme des morceaux de mots qui viendraient comme ça sortir et composer peut-être un semblant de récit, mais un récit qui serait peut-être déjà compromis par rapport à ce que je pourrais en dire, ou ce que je pourrais faire porter à ces objets. J'ai pas nécessairement envie de faire porter tant de choses que ça à ces objets qui n'ont peut-être rien demandé d'ailleurs. Voilà, un mot cassé, bon, un langage compromis. Je pense que il y a quelque chose d'assez important pour moi, c'est de maintenir une certaine distance par rapport à ces objets que je vais me réapproprier, maintenir la chose à distance de soi, c'est-à-dire essayer de maintenir une sorte d'hermétisme, une sorte de chose peut-être presque autonome, entre guillemets, en fait, comme on peut le voir ici avec ces ruches, qui sont des ruches atteintes par la teigne, enfin la fausse teigne, et donc bon, ça on ne peut pas nécessairement le percevoir, sauf que, en tout cas, celle-ci, elle est définitivement close. Dès que justement, on essaierait de pénétrer ou d'aller voir un peu plus loin à travers ces objets, j'ai l'impression qu'on arriverait justement à juste un cadre, enfin une grille, une sorte de chose ouverte, certes, enfin forcée comme on pourrait forcer un coffre-fort. Mais on ne tomberait justement que sur peut-être quelques restes de propolis ou quelques restes de chalumeaux, justement, chalumeaux qui ont nettoyé, qui ont brûlé l'intérieur de ces nids et de ces larves de teigne. C'est aussi une tentative de ma part, peut-être de faire à nouveau émerger peut-être une figure, de faire émerger peut-être comme une sorte de station debout à partir de quelque chose comme ces hausses de ruche. Voilà. Et là, bon, j'en viens à ce moment que je recherche en fait le plus souvent dans ce type de travail-là, c'est vraiment qu'à un moment donné, la sculpture elle puisse être une sorte de point de rencontre, une sorte de surface de rencontre entre différents milieux, justement. Enfin, et là, bon, très directement entre une sorte d'habitat conçu par l'homme et ce second niveau, cette seconde isolation. Conçue par l'abeille, qui est donc cette couche de propolis que vous pouvez voir et qui recouvre comme une sorte de vernis l'ensemble de l'intérieur de cette hausse. C'est cette coexistence comme ça dans cette même architecture, enfin pré-architecture, qui serait justement, enfin pour moi, l'enjeu de ces sculptures-là, en fait, de faire se rencontrer ces deux matières, en fait, et de les placer en plein soleil, justement, de sorte que pendant le cycle de cette exposition, cette propolis, elle vient infuser toute une partie de l'espace, en fait, parce qu'en fait, elle est très prégnante en termes d'odeur. La surface d'une rencontre, donc la surface de quelque chose comme un habitat manufacturé et l'isolant fabriqué donc par l'abeille elle-même, je me répète un peu, excusez-moi. Cette feuille d'isolant, par exemple, cette feuille d'isolant qui est elle-même un isolant d'habitat beaucoup plus industriel et qui vient comme ça, comme une sorte de frontière fragile, ou en tout cas de tenter de maintenir dans la sculpture une sorte de frontière précaire au sein même de la matérialité de cette pièce-là. À nouveau, cette tentative de créer peut-être ce moment de rencontre ou ce moment de contact ici, donc entre peut-être ce qui serait de l'ordre de deux énergies ou de deux matières calorifiques, que serait la laine de verre et puis le tournesol, qui serait peut-être tout aussi calorifique quand on pense en fait à l'huile, évidemment de tournesol ou aux graines ou à des choses comme ça, comme celle-ci. Donc, des rencontres d'énergie aussi. Je ne saurais pas nommer la chose autrement que par le mot énergie, je pense. J'arrive vers la fin. Une sculpture, donc, enfin, moi, ce qui m'intéresse, ça serait vraiment de considérer qu'il y a quelque chose qui passe à travers la sculpture et qui passe vraiment et qui la parcourt et qui l'irrigue littéralement. Ici, c'est une pièce qui était montrée il y a quelque temps à Paris et qui s'appelle la vendange. Et la vendange, en fait, c'est quoi ? C'est voilà, cette sorte de poulet, en fait, qui est composé à la fois de différentes choses, entre autres du jus de betterave, enfin différents pigments comme ça qui ne tiennent pas nécessairement avec d'autres solvants. C'est pas nécessairement faire passer une sorte de pureté à travers cette sculpture, mais au contraire, faire passer une chose un peu complexe, justement, qui serait peut-être pas un fluide à prendre comme modèle, en tout cas. Cette chose venant aussi, cette vendange venant irriguer un espace, l'espace initial qui était avec un éclairage naturel, le premier espace, ici même, et celui-ci qui était complètement écrasé par les néons, en fait, de la galerie, et créant presque des images et non plus des sculptures. Il est vrai que je cherche tant que possible à ce que mon travail de sculpture ne devienne pas, ne tienne pas en tant qu'image, en fait, puisque je trouve que les choses n'auraient plus d'épaisseur et les choses seraient résumables à des images et non plus à des... et non plus à des choix, et non plus à des épaisseurs, et non plus à des consistances dont vous parlez. Il s'agit ici de deux autres éléments comme ça, comme un certain type de rapport au paysage, je ne dirais pas de territoire, parce que le territoire implique déjà des questions qui seraient de l'ordre de la cartographie, des questions qui seraient de l'ordre de se retrouver dans le territoire, alors que le paysage... Je pense qu'il s'agirait plutôt de se perdre peut-être dans le paysage plutôt que de s'y retrouver. Si on s'y retrouve, on s'y retrouve, on se retrouve dans le territoire. Ce face-à-face entre deux pièces, l'aveugle d'un côté et le tronc de l'autre, avec le paradoxe de cette pièce-ci donc, qui est réalisée à partir d'un affût de chasse, un affût qui est donc muni d'une sorte de camouflage comme ça assez poussé et qui est recouvert de tout un ensemble de sciures. De bois, bien sûr, de découpe industrielle, jusqu'à pousser l'idée de camouflage dans une sorte d'excès, comme ça, dans une sorte de tentative comme ça de neutraliser ce camouflage. Et le paradoxe de cet objet, c'est qu'à un moment donné, on irait chasseur ou photographe animalier ou peut-être d'autres types d'usages, on viendrait pénétrer cet objet, on viendrait se placer à l'intérieur puisqu'en fait cet objet est muni d'une assise en fait, que l'on ne perçoit pas puisque la sculpture elle est fermée, elle est à nouveau hermétique, et on viendrait s'isoler, se couper, s'abstraire presque d'un milieu donné pour paradoxalement accéder à son cœur, enfin accéder à son centre. Et c'est peut-être cette sorte de tension qui m'intéresse en fait dans ce type d'objet.